Bonjour tout le monde, en tout cas. On y va. Bonsoir, donc, dans le Théâtre du Hangar, pour la cinquième édition du festival mondialement célèbre, et en particulier à Toulouse, des Bruissonnantes. Voilà. Ce festival, donc, va se dérouler pendant 3 jours, a commencé déjà hier soir, donc jeudi soir, il recommence ce soir, vendredi soir, et demain, samedi soir, par 3 séquences de chaque fois 3 artistes qui se produisent, chacun environ 20 minutes. Et chaque soir, il commence à 20h, à ceci près que ce soir, nous faisons une table ronde rectangulaire à 19h. Et demain soir, Sébastien Lespinasse et moi, nous faisons à 19h une conversation libre autour du thème des Printemps des Poètes cette année, qui est le grand 20e siècle. Alors le Festival des Bruissonnantes, comme le nom l'indique, c'est un festival où il y a du bruit, où ça sonne, où ça fait référence à l'île sonnante de Rabelais, où il y a du pluriel, il y a du multiple, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des corps, il y a des voix,
il y a des animaux aussi.
Sur les corps, il y a des animaux, et en particulier ce soir, nous avons la chienne Oreille, la chienne de Edith Azam,
trompette,
qui est là, autour, c'est trompette, voilà, ouais. En fait, autour de nous, avec nous. Alors, autour de la table, donc ronde et d'ailleurs rectangulaire, je vois donc Sébastien Lespinasse, qui est le grand animateur du festival avec la compagnie Lohengrin et aussi en compagnie de la librairie Au Les Beaux Jours de Toulouse. Je vois Anne-Claire Hélot, donc une poétesse performeuse. Je vois Edith Azam avec sa chienne qui, hier soir, nous a fait un très beau poème d'amour. Je vois Rémi Brassier sans sa guitare préparée, mais on verra tout à l'heure. Et Eddie Bluecker, l'homme de la maison peinte, qui, demain soir, avec Sébastien Lespinasse, nous ferons. Non, ce soir même d'ailleurs, oui. Un duo de guitare, on n'attendra pas, on est dans l'impatience. Alors Edith, il y a donc effectivement hier soir de la poésie, un magnifique poème sur l'amour et puis un autre poème. Et puis on a entendu un spectateur, une spectatrice merveilleuse, avec des oreilles merveilleuses, c'est pour les auditeurs, c'est un petit chien entouré de bleu, avec des oreilles immenses, le chien vraiment de la poésie, avec des oreilles gigantesques. Alors voilà, ce chien... Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Est-ce qu'il peut parler? Enfin voilà,
qu'est-ce que... C'est après une résidence à l'Observatoire du Centre National de l'Espace. Et ils me l'ont passé, c'est un prototype.
C'est un prototype, ouais. Donc c'est le premier chien comme ça?
Oui, c'est à résonance poétique et magnétique.
Résonance poétique et magnétique, ouais. D'accord.
Il est fidèle, il s'entend avec les chats.
Il s'entend avec les chats.
Le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'on me l'a passé... parce que le prochain aura normalement la parole,
oui.
La capacité d'invention, je pense qu'il sera polyglotte aussi.
Oui.
Et moi, je ne le suis pas, alors mon passé suisserie, en pensant que j'allais m'adapter au langage chien wawa.
Oui.
Et en fait, on boite un peu, mais on y arrive quand même.
Moi, j'ai été très étonné hier soir comment le chien, donc ce chien trompette, a écouté avec une très grande acuité, presque avec tout son corps et avec ses oreilles mises en arrière, tout son corps vibrant, la musique notamment de Jérôme Nottinger. Et moi, je voudrais savoir si toi, Edith, tu écris aussi, pas simplement pour les êtres humains, mais aussi au-delà. Pour les animaux, pour les végétaux, pour les choses, pour le monde muet, la patrie muette, le monde muet de Francis Pange. Est-ce que tu écris aussi pour cette direction-là ou est-ce que c'est pas du tout ça?
Non, alors ça va sembler peut-être un pied de nez ou une blague, mais je sais pas si c'est vraiment une blague. J'écris peut-être parce que je suis un animal, un végétal et aussi ouais. Un petit peu de ça. Et que du coup, les petits animaux parlants que nous sommes, la parole, c'est pas si... Je sais pas si on s'en sert dans les bonnes choses en fait de la langue. Et peut-être que si on était plus connecté à l'animal qui est en nous, on pourrait se servir de la langue d'une façon plus juste.
Ouais.
Ouais.
Et est-ce que toi, quand tu lis ou interprètes ou performes, je sais pas quel est le terme, s'il y a un bon terme ou pas, tes textes, est-ce qu'il y a un moment où tu es comme un renard, ouais, un renard lisant, un animal qui est attentif aux signes.
Je sais pas, en tout cas, je pense que dans l'acte de lire et peut-être d'écrire aussi, on est avec la petite bestiole ou le monstre qui est en nous, et c'est toujours un combat avec cet inconnu de nous qui est peut-être de l'ordre de l'animalité ou de cette jouissance ou de cette frayeur primaire, primitive, je sais pas comment on dit. Mm-hmm. Enfin, c'est des questions, des hypothèses, je ne sais pas trop. Voilà.
Oui, est-ce que, en écoutant tes textes hier, ça m'a frappé beaucoup que c'était des textes très physiques, y compris quand tu parles d'amour, et particulièrement, quoi. Et justement, évidemment, s'il y a quelque chose de particulier avec les animaux, le frappant, c'est le corps. Hein, ils sont très corps. Et alors, est-ce que là, il y a quelque chose voilà, de rapport entre le corps, la poésie, l'animal, enfin tout cela, quoi.
Ah, sans doute. Après, j'aimerais... Enfin, si je pouvais avoir la... chez un animal, le rapport au corps est naturel. Chez nous, il est toujours pensé, esthétisé, ou je sais pas, et c'est pas évident d'avoir un corps. Ce qui est bien pour moi en lecture ou quand j'écris, c'est que justement, j'ai l'impression de ne plus avoir de corps. Je suis libérée de quelque chose, en tout cas.
Et hier, ce qui m'a frappé dans un des deux textes que tu as lus, tu es revenu sur un grand thème poétique par excellence, qui est bon, l'amour. Hein, voilà, il y avait le mot amour qui apparaissait, oui. etc. Et même avec un dialogue presque par moment avec Cupidon, enfin c'était presque, par moment presque de la littérature classique, on trouvait ça. Et alors là, est-ce que, bon, il y a plein de livres qui s'appellent la poésie comme l'amour, l'amour, la poésie, est-ce que, parfois on dit, tiens, quand on fait l'amour, on est comme des petits animaux, comme des petits enfants, quelque chose comme ça, est-ce que là, il y a quelque chose de fondamental dans ce... Parce que c'était un poème qui était... d'une certaine manière incroyablement traditionnelle, et puis parce qu'effectivement c'est ce thème de l'amour, et puis incroyablement dans le moment présent. Et moi j'étais frappé soudain de voir dans un lieu de poésie contemporaine un poème d'amour, parler d'amour qui...
Ah, j'ai lu ce texte, c'était la première fois que je le lisais. En fait, c'est un texte que j'ai écrit pour une commande, pour la revue IF,
oui.
qui est sur ce mois-ci, ou sur l'amour. Je l'ai lu parce que j'aime prendre le risque de lire des choses nouvelles et dans lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise, et où je me dise, quelque part, dans ce qu'on fait, c'est une joie, on peut s'autoriser à aller vers l'échec. Et c'est pas grave, on a tenté quelque chose, et c'est déjà pas mal. Donc, c'est rigolo qu'il soit classique, mais je peux l'entendre et ma foi, bah, c'est très bien si j'ai exploré ça sans savoir. Et voilà, après je ne sais pas quoi répondre.
Nous, on était très heureux de l'entendre.
Ah, bah, c'est gentil.
Et bon, trompette aussi. On était comme émerveillés d'entendre cette chose-là qui est très belle, qui était très présente. Et puis qui effectivement résonnait dans des choses bon, très anciennes de la poésie. On se disait, tiens, voilà ce mot amour qui vient de l'histoire, et puis du corps, et puis de... Et puis voilà, il y avait une sorte de fusion qui était autour de moi, les gens qui étaient autour de moi, et
tu
les
sais,
hommes ou les femmes, il se passait quelque chose.
J'ai l'impression que l'amour est encore contemporain, que je connais des gens, quelques-uns, hein, pas beaucoup, mais qui ont encore des histoires d'amour
tu
aujourd'hui, en 2016, et c'est...
On les pêchait.
Oui, on en trouve quelques-uns parfois.
Oui. Et peut-être des histoires d'amour parfois avec des crevettes. Des crevettes. Parce qu'on parlait tout à l'heure avec Anne-Claire Hello des animaux. Donc Anne-Claire Hello est là, elle jouera demain soir, je crois tout à fait à la fin de la soirée. Et elle nous arrive de Paris, elle a mis plein de choses. Et effectivement, je ne la connaissais pas il y a environ 10 minutes. Et au bout de quelques minutes, on s'est mis à parler d'aquarium, de crevettes. Et voilà, j'aimerais que tu nous parles d'aquarium, de crevettes. Apparemment, l'eau se promène dans tes œuvres.
Ouais, donc j'ai deux crevettes. Ça commence. qui s'appelle De Gaulle et François Hollande, et un escargot d'eau qui s'appelle Calamity, comme Calamity Jane. Et donc oui, bon, Yves, tu aimes les tritons.
Oui.
Nous avons parlé de ça tout à l'heure. Je vais essayer de continuer sérieusement. Le truc, ce que je disais, c'est que l'élément eau, pour moi, est très important et se retrouve au final dans mes textes. Soit l'eau envahit tout, soit il n'y en a plus et on suffoque. Et je, tout comme toi, trompette est important, en fait, moi, ce minuscule aquarium qui n'a l'air de rien, enfin, tout le monde peut avoir un aquarium, peu importe. Mais pour moi, c'est comme dans cet appartement, un petit lieu où je me sens bien. Et, voilà, et ça m'aide, enfin, je ne sais pas comment dire, ça fait partie de ce qui me travaille, en fait. Je ne sais pas comment exprimer ça. Mm-hmm. Bon, j'ai du mal à parler de tout ça, désolé. Mm-hmm.
Et est-ce que je pense à une phrase célèbre d'Apollinaire qui est racontée par Breton, qui dit ta langue poisson rouge dans le bocal de ta bouche. Et une manière de se dire, c'est peut-être que la langue et la parole, c'est comme l'aquarium et aussi le poisson, enfin peu importe. Est-ce que tu as l'impression que dans ton activité poétique, je ne sais pas, tu nages comme un poisson ou tu es l'eau dans le poisson ou tu, je ne sais pas, enfin voilà. Est-ce que cette image va avec le langage?
La langue d'eau, en fait.
Oui, la langue d'eau.
Ouais.
Et peut-être Rémi Brassier, toi tu fais de la guitare préparée, est-ce que la guitare est ton animal?
Un animal non, un objet par contre.
Un objet, oui. Mais tu n'as pas un rapport un peu amoureux avec ta guitare,
si.
Que tu tripotes un
si,
peu, que tu caresses?
Oui, oui. Je les tripote effectivement.
Oui.
La caresser c'est autre chose, mais c'est un objet. Et, l'avantage de l'objet c'est que ça demande assez peu d'entretien, qu'on peut partir en vacances et le laisser chez soi,
oui.
Quand même. Bien que je parte très peu de chez moi, mais enfin si je voulais, je pourrais, parce qu'on nécessite assez peu d'entretien, elle vit assez bien toute seule, sans mon intervention. C'est d'ailleurs un peu comme ça que j'en joue, hein. Je la laisse faire à peu près ce qu'elle veut.
Oui.
Je me contente de préparer les choses et puis après de laisser vivre ce qui se passe, sans trop vouloir la dominer, parce qu'en fait, je me suis aperçu... assez tard, ça fait plus de 25 ans que je fais de la guitare, et je me suis arrêté très longtemps parce que je cherchais la dominer et ça marchait pas. Et dès lors que j'ai compris que quand on cessait de vouloir dominer l'objet avec lequel on jouait, il se mettait à jouer tout seul, ça a complètement changé ma vie. Et je me suis mis à faire de l'improvisation à ce moment-là. Ça a changé ma vie, effectivement.
Élie Baker, je crois que le mot improvisation aussi te va bien. Enfin, voilà. Toi, tu n'es pas dans un aquarium, mais souvent dans la maison peinte. Et alors, est-ce que toi, tu n'as pas d'animal particulièrement, ou c'est l'improvisation même?
J'ai quatre chats.
On a un petit zoo ici, d'accord.
Assez particulier.
Quatre chats, d'accord, dans la maison peinte.
Voilà, il y a quatre
dans
chats
la maison peinte. Alors, tu peux nous parler un petit peu de la maison peinte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, avant d'aller dans ce...
Ah, ben la maison peinte, c'est chez moi, en fait. C'est,
oui.
C'est un petit lieu où, depuis 12 ans, on organise des concerts de musique improvisée, un peu de poésie, un peu de performance.
Et Sébastien Despinas vient assez souvent.
Il vient en tant que spectateur, en tant que performeur. Rémi aussi est venu. Et voilà.
Et plein d'autres gens. J'ai découvert beaucoup de choses, hein, grâce à Maison Sainte.
Ça fait 12 ans que ça existe et ça va s'arrêter cette année.
Peut-être tu peux expliquer un peu d'où vient ce nom de Maison Peinte. Hein. Pourquoi
c'est
la Maison Peinte?
La maison est vraiment peinte.
Oui.
Tout simplement. Parce que mon épouse, David, est plasticienne et son art, c'est la maison.
Voilà. Et alors, il y a un mot qui m'intéresse dans votre travail, Rémi, à toi, c'est le mot improvisation. Parce que là, c'est vraiment très important. Je t'ai entendu dans la rencontre des bouches qu'on a faite, et avec Sébastien, on aime bien aussi l'improvisation. Les rencontres des bouches, c'est comme des marches que l'on fait dans des territoires improbables, sans savoir très bien où on va, mais il y en a avec énergie. Et là, dans des grottes, je me souviens que tu as joué de la musique de manière improvisée. Je crois que c'était à Cabrespine, par exemple. Alors, voilà, quel sens ça a, improviser? Qu'est-ce que tu cherches par là pour, voilà. Et peut-être aussi, d'ailleurs, Rémi, enfin voilà, c'est ce travail de l'improvisation en musique.
Qu'est-ce qu'on cherche?
Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi improviser plutôt que dire des partitions?
Je pense qu'on cherche à parler, tout simplement.
Oui.
Enfin, moi, ce qui m'a aussi séduit dans ces musiques-là, d'abord dans le jazz, même si le jazz m'intéresse assez peu, pour ne pas dire pas du tout, c'est la dimension de la parole. J'avais l'impression, quand je l'écoutais les concerts de jazz, que les musiciens s'en foutaient de la musique. Mais que par contre, ce qui les intéressait, c'était de parler. Et ce que j'ai pris, moi, c'est ça. C'est simplement l'envie de parler et pas simplement de lire ce qu'ont écrit les autres, finalement. Mm-hmm. Mais c'est pas antinomique avec l'écriture, parce qu'en parlant, on finit par écrire soi-même des choses qu'on répète. Et c'est une écriture orale, finalement, l'improvisation. Je sais pas si toi, Eddy, tu le vis comme ça.
Mais moi, je le vis pas non plus comme ça, mais chacun le vit comme il veut. Non, moi je sais pas. Je fais de l'improvisation parce que je sais faire que ça, en fait.
Bon qu'à ça.
Bon qu'à ça.
Voilà, je suis bon qu'à ça.
Donc, Et toi, Edith, est-ce que tu lis toujours des textes que tu as faits avant, ou est-ce que tu fais des sortes d'improvisation verbale ou autre, ou enfin voilà.
Non, je connais bien la musique de mes textes.
Oui.
Parce que c'est vraiment construit avec une musique qui arrive, je ne sais pas comment d'ailleurs, Et donc, je peux avoir des fois ne pas arriver à lire parce que la page tremble ou pas, peu importe pourquoi. Et comme je connais la musique, j'arrive à remplacer les mots comme ça, mais improviser.
Et quand tu dis la musique du texte, de tes textes, est-ce qu'il y a toujours la même musique ou est-ce qu'il y a des variations d'un soir à l'autre assez considérables?
Non, je pense qu'un texte, c'est à chaque fois une mélopée ou une...
C'est-à-dire, en fait, la question de Yves, c'est, au fond, est-ce que le rythme est interne au texte ou est-ce qu'il vient de l'interprétation du texte, de ta manière de lire?
Non, il est interne.
Il est à l'intérieur du texte,
Et pour moi, une bonne lecture, c'est vraiment arriver à retrouver la vraie tension qui fait que ça a été... le texte est sorti avec cette pulsation-là. Et de retrouver la pulsation et les tensions rythmiques, ou je ne sais pas comment on dit. Après, improviser, ça doit être... Enfin, moi, j'envie ce qu'ils font. Mais je ne m'y suis jamais risquée.
Et du coup, je reprends la question un peu de Sébastien. Est-ce qu'il est possible, est-ce que tu admettrais l'idée, est-ce que ça te ferait l'effet de quelqu'un qui lirait tes textes, mais qui les lirait probablement autrement?
Je trouve ça super.
Oui, et c'est arrivé, parce que du coup, le rythme n'est pas nécessairement le même, je ne sais pas.
Oui, mais ça c'est... j'ai absolument pas de... C'est pas la peine qu'on me reproduise, sinon je le filme et... Ça me fatigue. Non, c'est fait pour disparaître, pour être avalé, pour être transformé, pour être tordu, pour être autre chose à la limite. Un texte, il a sa vie. Elle, chaque lecteur refait vivre. Enfin, on est tous. Avec l'univers, on transforme les choses et c'est très bien comme ça, quoi.
Et toi, Anne-Claire, tu produis des livres, des actions sur scène et aussi, je crois, t'occupes d'une revue. Et alors, tu peux nous décrire un petit peu ton activité, parce qu'elle est multiple, ça je sais.
C'est toujours...
En dehors de la crevette.
Oui. Non, c'est toujours la même chose, c'est écrire et performer, on va dire. C'est un terme fourre-tout.
Qu'est-ce que tu appelles performer?
Je pense que c'est quand on dépasse la simple lecture, en fait. Bon, après, c'est une performance très particulière qui est juste dans le domaine poésie, là, dont je parle. Parce que la performance de se mettre 3 pommes sur la tête, et c'est encore autre chose. Mais c'est quand on commence à partir loin, en fait. Et je vois ça comme casser des interdits et des jugements et des tabous, en fait, et se mettre en danger... Et se déborder, ça peut être de n'importe quelle façon, quoi. Chacun y trouve son propre défi. Et voilà.
Et ces performances, tu les fais seule?
Seule, oui.
Hein, c'est ça, voilà. Oui. Tandis qu'Eddie, j'ai l'impression que très souvent tu joues à plusieurs. Ou à deux, comme deux. Demain soir avec Sébastien.
Ce soir. Voilà.
Ou ce soir, c'est vrai, je joue absolument ça demain soir.
Ça va de 1 à 20.
De 1 à 20, c'est ça. Et c'est important cette idée du groupe, du 2-3, du dialogue, parce que moi je t'ai vu 2-3 fois, à chaque fois c'est du combat, du dialogue.
Du combat, pas toujours.
De l'amour, parfois.
De l'amour, parfois. Ça dépend vraiment avec qui tu joues, dans quel contexte tu joues. Comment tu es ce jour-là, comment tu n'es pas. C'est très variable. Quoi. C'est, bien sûr, ça joue avec ce qui se passe au moment présent. Donc, il n'y a pas de règle. En fait.
Je ne veux pas te couper.
En tout cas, je ne m'en invente pas. J'essaye de ne pas m'en inventer. Après, il y en a qui viennent parce que on est ce qu'on est. Quoi. Mais voilà.
Moi, je profite de cette table carrée, moi qui joue depuis longtemps avec toi dans différentes formes, on va dire. D'abord, j'ai joué avec toi quand tu jouais du saxophone, puis maintenant tu joues de la basse, mais d'une basse élargie qui fait des tas de choses en fait. Est-ce que c'est une chose vraiment différente pour toi de faire une improvisation avec un musicien ou de faire une improvisation avec quelqu'un comme moi qui travaille le texte, qui est écrivain ou poète ou ce genre de choses?
Oui, c'est encore. Toi, tu vas dans des terrains très musicaux ou très sonores, mais tu lis aussi des textes. Et quand il y a un texte, il y a quand même le poids des mots, quoi. L'envie d'entendre, de ressentir le sens, l'histoire, enfin tout ce que tu veux. Donc il y a quand même cette distance, et puis c'est cette ça crée quand même quelque chose de différent que juste le mélange des sons.
C'est un solo.
C'est une attention un peu au texte qui est lu, qui est différente de l'attention d'interaction avec le son par rapport avec d'autres.
Comment tu écoutes ça? Tu arrives à écouter le texte en même temps? Tu l'écoutes non. De quelle manière ou...
Ça dépend. C'est des bribes qui passent, mais enfin, il y a toujours la...
C'est des mots, c'est une musique, c'est une ambiance, c'est des trajectoires. Ouais. Moi, je t'entends comme des...
Ça et, oui, des fois, c'est des espèces de balles de mots, en fait. Souvent, je prends des trains de mots qui passent comme ça, que je chope un peu, que je transforme moi-même, que je ressors par mon instrument. Mais j'essaye pas de dire qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ça veut dire. Toi, je n'ai pas une attention active au sens de ce que tu dis. Quoi.
Est-ce que c'est pas un peu l'attention que le chien trompette faisait hier avec Jérôme Nottinger, c'est-à-dire une attention presque animale finalement à ce qui se passe, qui est comme une présence même. Ben, là, je te donne un peu ma réponse à moi. Je te donne ma réponse à moi ou mon fantasme du chien trompette.
C'est mieux de savoir que moi ce qu'il ressentait.
L'année prochaine, de toute façon, on a prévu avec Sébastien de n'inviter que les animaux sur la scène et comme public. Et la table ronde.
Bon, là, c'est des animaux habillés en être humain cette année. C'est des animaux habillés en être humain cette année.
Cette année, oui, mal habillés, mais juste provisoirement. Mais est-ce que quand tu fais un duo, par exemple, avec Sébastien, auparavant, tu lis, tu regardes un peu le texte de Sébastien ou est-ce que... Oui, d'accord. Donc, tu as déjà quelque part une idée. Voilà. Et Rémi, est-ce que tu fais parfois comme ça des duos, des trios avec...
Moi, j'ai un duo avec une lectrice. On travaille sur un texte de Bernard Noël. Sur le roman de Naître, qui est un texte absolument illisible.
Oui.
Il s'est d'ailleurs étonné qu'on choisisse ce texte-là. Et c'est un travail que je trouve très particulier. L'habitude que j'ai de travailler soit avec des musiciens ou des danseurs, où on est sur une vibration un peu similaire, quand on travaille avec des mots, moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a des choses qui m'arrêtent. Moi je peux laisser la guitare jouer toute seule, pendant des heures. Et bien quand il y a du texte, eh ben, il y a des moments où moi ça m'arrête, où tout à coup, même j'entends ce que je suis en train de faire très différemment, où je suis surpris par des espèces de collusions de sens entre un texte qui est là, qui tourne en plus, enfin, d'une manière pas préparée, parce que ce n'est pas des choix faits, la lectrice voyage dans le texte un peu au hasard, comme ça. Il y a des espèces de rencontres assez inouïes qui font que ça suspend quelque chose du côté de la musique, et j'aime assez ça finalement, quelque chose qui vienne arrêter une espèce de flux qui pourrait être sans fin, et lui donner un sens qu'a priori il n'a pas, quoi. Le son
le son n'a pas de sens en soi.
Oui,
d'accord. Les mots, oui. Et Edith, parfois tu as travaillé avec des musiciens?
Ah, ça, c'est chouette. Oui. Enfin, pour moi, je trouve qu'être accompagné avec un musicien, c'est déjà très, très bien quand on est à deux, je trouve, enfin, ou trois ou plusieurs. Parce qu'en même temps qu'on essaie d'être connecté avec l'attention du texte qui s'est faite à un moment donné, ben, là, on est vraiment aussi catapulté de fait dans l'application du moment présent. C'est-à-dire qu'il faut laisser la place à l'autre. Mais il faut soi-même exister aussi pour que ce ne soit pas une histoire de collage. Et je trouve que ce qui se passe dans l'attention des uns, des autres, des uns vers les autres, dans l'écoute, est quelque chose des fois de l'ordre de la grâce. Enfin, moi, et puis alors être avec de la musique, ça fait l'impression que quand on dit un poème, c'est un caillou qui tombe dans l'eau. Et comme quand on fait la carotte, ça se fait plouc. Et que dès qu'il y a de la musique, pouf, on voit les cercles sur comment ça s'appelle, les cercles concentriques qui se développent tout autour, et ça c'est rassurant parce que enfin c'est mon fantasme peut-être du musicien, mais on a l'impression qu'il développe toute une plage dans laquelle on peut ou se laisser engloutir, mais c'est pas grave parce qu'on est tous happés, on se retrouve là comme des gros poissons du kilomètre sous l'eau ou sous les sables mouvants, je sais pas, et que il y a un courant, il y a un fluide. Donc ça va, ça coule, l'eau elle est toujours dans le bon sens, je dirais. Même s'il y a un rocher au milieu, elle contourne le rocher, nous on fait que ça, sinon boum boum.
Et tu le fais avec tes propres textes? Oui, est-ce que parfois il t'arrive de lire des textes?
Des fois oui, j'ai... Non, en général on m'invite pour lire mes textes. Et ça m'est arrivé justement qu'on me demande d'être avec un musicien et c'est vraiment chouette. Enfin, pour moi, je trouve ça très très...
Ça fait du bien. Et Anne-Claire, ces images de poissons et d'eau là, et de musique, est-ce que toi tu aussi travailles à plusieurs voilà, et avec parfois des images un peu analogues là, de
Bah oui, j'ai écrit un truc là-dessus justement. Oui. Que la dernière fois, j'ai été noyée totalement dans des nappes de sons hyper intenses. On peut appeler ça de la noise, mais c'est pas vraiment de la noise, mais bon. Il y avait plusieurs musiciens, c'est les fondateurs d'un label qui fait aussi de la poésie sonore, le label Trace. Et donc c'était une expérience assez forte, puisque la voix se retrouve minuscule au fond d'un immense océan de sons, quoi. Et c'est intéressant à vivre, en fait. Enfin, moi, je vois ça comme une lutte, en fait. Et c'est aussi, donc, du coup, redécouvrir son texte, redécouvrir sa voix, tout à travers ça, quoi. C'est un travail complètement différent de quand on est tout seul avec le silence autour, quoi.
Est-ce que tu voudrais, je crois que tu as un texte peut-être, est-ce que tu voudrais tenter de nous lire un texte ou un fragment de texte là maintenant?
Oui.
C'est possible? Oui.
Oui, oui. Ah
ben voilà.
Bon, ça va être court.
Jouir, cognement, laisser surgir d'insignifiants détails, tes convoitises, ta perversité, ton narcissisme carnaval, je laisse surgir. Ta prétention, je laisse surgir. Ton ignorance, tes menaces, je laisse surgir. Tes chiffres, je laisse surgir. Tes lois, ta puanteur, ta nation, je laisse surgir. Cognement ta masse, cognement tes sondages. Cognement ton époque, je laisse surgir. Ta niaiserie, je laisse surgir. Ton espace vital, je laisse surgir. Ta guerre, je laisse surgir. Ton destin, le fruit de sans vie. Tes qualités naturelles, je laisse surgir. Ta domestication, ta soif, tes sacrifices, je laisse surgir. Ton apathie, tes contraintes, tes pressions, je laisse surgir. Tes frissons, tes optimisations, je laisse surgir. Ta psychologie fragile, ton égoïsme désinvolte. Ta micro-volonté hostile, ta routine irrationnelle, je laisse surgir. Ta liberté servile, ta solidarité conflictuelle, je laisse surgir. Ton indifférence obscène, ta possessivité, je laisse surgir. Ton mimétisme, je laisse surgir. Ta grande confusion, je laisse surgir. Ton libre arbitre illusoire, tes groupes de pression, ta lutte des classes. Ta classe dirigeante, je laisse surgir. Ta viscosité, ton entropie, je laisse surgir. Ta grandeur tartuffe, je laisse surgir. Tes prototypes, tes héros, je laisse surgir. Ta perpétuité, je laisse surgir. Ton idéal faiblard, je laisse surgir. Tes taux de rendement, tes révolutions, tes macérations, ta vulgarité, ta volatilité, je laisse surgir. Tes bidonvilles, je laisse surgir. Tes matraques, je laisse surgir. Tes cadavres, je laisse surgir. Ta tête, je la couperai. Ta bouche, je la couperai.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, moi, j'ai peut-être une question à te poser par... Pas vraiment par rapport à ce texte, mais finalement, ça y vient. C'est que tu t'appelles Anne-Claire et que quand je t'ai rencontrée, tu m'as envoyé un message sur une boîte mail ou Facebook, je crois. Et j'avais quelqu'un qui s'appelait AC et qui était aux États-Unis, je crois. Et je me suis dit, immédiatement, dans ma tête, je me suis dit, ah ben, c'est un mec, un Américain, ou quelque chose comme ça. Et en fait, tu n'aimes pas qu'on t'appelle Anne-Claire, ou tu préfères en tout cas qu'il y ait tes initiales assez. Alors, peut-être le texte, je ne sais pas, que tu as lu, fait entendre ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce travail sur le nom que tu te donnes, ou le nom que tu es?
Le nom que j'ai ne me pose pas de problème dans la vie civile au quotidien, et même avec toi. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on n'a plus de corps, en fait, quand on est dans l'écriture. Je ne sais pas comment toi tu le ressens. Plus de corps, et c'est-à-dire aussi plus de sexe, enfin plus de genre. Et par rapport à ce que je fais, le Anne-Claire n'a pas du tout de... C'est vraiment dur à expliquer, mais pas du tout. C'est absurde pour moi, en fait. Mmh. Anne-Claire n'a rien à faire dans cette histoire, en fait. Et il y a une autre raison aussi, c'est que je suis toute seule avec ma fille. Donc le fait d'avoir un travail est super important, parce que je n'ai pas de revenus, enfin, je n'ai pas de pension, rien. Et du coup, je me protège aussi de la vie civile, etc., en ayant assez Hello et non Anne-Claire Hello, pour ne pas être retrouvée par... le monde du travail, en fait. Parce que je pense que si une DRH tombe sur mes perfs, où j'explique que je vais couper la bouche du pouvoir, etc., eh bien, ça va mal se passer. Et je pourrais ne plus avoir de travail, et ma petite fille et moi serions sous les ponts.
Donc voilà, il y a deux raisons en fait. Mais la première, c'est vraiment que Anne-Claire n'a pas de place dans tout ça, et il n'y a pas de corps féminin, il n'y a pas de...
Mais c'est une question très forte, parce que moi-même, je suis prof dans un collège difficile à Paris maintenant, et alors moi je suis très content parce que mon pseudo, c'est mon nom de travail. Dans mon travail, j'ai un nom qui est légèrement modifié, je me suis amputé de ma lettre L, de mon initiale, donc je suis Monsieur Espinas, et du coup les élèves que j'ai ne peuvent pas tomber non plus sur ça. Et c'est important pour moi parce que, en fait, j'ai eu, à cause de Yves aussi d'ailleurs, qui met des photos de mon nombril en grand nombre sur Internet, ce genre de choses.
Le mien aussi.
Il y a une sorte de question. Alors, moi je pose cette question. Est-ce que le poème est de l'ordre de l'intime? Est-ce que c'est quelque chose de partageable profondément? Est-ce que le travail poétique est quelque chose de l'intime, du partageable, de la communauté du secret? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est public jusqu'à où? Jusqu'à quel point? Question un peu que je lance en l'air, je ne sais pas si ça vous parle, cette question-là. Même, je pense à Edith qui écrit par exemple souvent... Quand on organise un festival, on demande aux personnes qu'on invite de donner une biographie, une petite notice biographique pour avoir une idée de qui est la personne. Et en général, la notice biographique d'Edith commence par « se moque ou n'aime pas les biographies ». Donc il y a une question comme ça qui se tisse sur l'identité, le sujet. Je ne sais pas forcément bien la formuler, mais peut-être vous, elle résonne chez vous.
Ben quand même, je crois que ce soit le poème, la musique, c'est partageable parce qu'on le partage, mais pas pour d'autres raisons que ça. Dans le fond, c'est partageable parce que d'autres veulent bien le partager quand on leur adresse. Mais sinon, ça me semble très intime. Je trouve que le texte que tu nous as lu, je ne sais pas si c'est une histoire d'intimité, mais pour moi, il y a du corps dans le texte. Et finalement, il n'y a pas besoin qu'il y en ait ailleurs que là, du corps. Le corps, est-ce que c'est partageable? On peut le découper en morceaux, mais qu'est-ce qu'on en fait après, quoi? Je pense que le poème, c'est partageable au même titre que le corps, finalement. On essaye, et puis... Des fois ça marche, des fois ça marche pas.
Il y a peut-être quelque chose qui est des fois terriblement dangereux, presque politiquement, c'est de rabattre, par exemple, le « je » qui est dans ce texte, « je laisse surgir », et de dire « ce « je », c'est Anne-Claire Hello », et donc la personne qui est là avec son corps, sa vie précisément, et de l'enfermer dedans, et de dire « elle n'est pas comme ça, ou elle est comme ça, ou elle est comme ça », alors que peut-être dans le poème, il y a un arrachement par rapport au « je », c'est-à-dire que quelque part, notre biographie nous enferme, quelquefois, alors que le poème tente de nous libérer de la biographie. Enfin, il y a peut-être un peu comme ça. Moi, j'étais frappé, quand je ne te connaissais pas avant tout à l'heure, avant qu'on parle de la crevette, parce que ce nom aussi de Assez et l'eau dont parlait Sébastien, vous parliez, parce que j'étais frappé par ça, et je me disais, tiens, c'est vrai qu'Anne-Claire, en plus, bon, il se trouve que ma sœur s'appelle Claire, c'est un prénom qui entre virginité et tout ce que l'on veut, qui accable par moments un petit peu, qu'on peut vivre, mais en même temps, Assez, il y a quelque chose qui se dit dans assez d'essai ou je ne sais pas quoi, et le nom est assez étonnant, de Assez Hello, tel que je l'ai perçu. Je n'ai pas pensé à américain, mais un slogan, quoi, voilà. Hello, assez, enfin, voilà. Voilà, il y a quelque chose d'étrange, quoi, de très fort dedans, voilà. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure, je laisse surgir, c'est quelque part de Hello, assez, enfin, il y a quelque chose. J'avais l'impression même que je laisse surgir, tu disais assez, enfin, quelque chose comme ça. Est-ce que tu habites non pas ton nom, Anne-Claire Hello, mais tes initiales, Assez Hello.
Voilà, non, je crois que c'est pas... J'ai mis ça parce qu'il fallait bien mettre un truc, mais je m'en fiche, je sais pas. Ou bien mettre un nom à un moment, un prénom pour être... voilà, mais,
ouais. Mais nous, on le reçoit.
Ça n'existe pas, en fait. Oui. Le « je laisse surgir », en fait, c'est... si, il y a bien sûr de moi là-dedans, avec ma vie, etc. C'est le fait que je pense que quand qu'on crée, on va dire, on laisse surgir, justement. On est obligé, même l'horreur, de la laisser surgir. C'est pour ça que je voulais écrire là-dessus. Bon, c'est un moment où j'étais assez en colère aussi dans ma vie, donc voilà, ça se ressent peut-être, mais voilà.
Mais il y a une question comme ça. Moi, j'ai abordé le biographique, finalement. Parce que c'est intéressant, le biographique, au sens le terme écrire la vie. Alors, peut-être la sienne ou la vie, l'impersonnelle vie. Moi, j'aime bien cette idée-là, la vie qui traverse, la vie infinitive qui nous traverse. Qui nous traverse, nous, animaux dotés de parole. Mais en même temps, toujours ce problème avec l'écriture, et peut-être c'est une chose fondamentale dans le travail de l'oralité, de la langue, de la syntaxe, une volonté de ne pas se laisser enfermer, de ne pas se laisser prendre au mot, parce que le mot, il fixe quand même. C'est très, très dur de dire « je suis cette personne, je suis ça, voilà, je suis ça, ou même je deviens ça, peu importe, là. » Les mots sont comme des choses qui nous... On a envie, enfin moi j'ai envie de dire que le travail poétique, il est dans le... En tout cas, celui que moi je défends et celui dans lequel moi je vous entends un peu, c'est une défiance à l'égard du langage, c'est-à-dire une envie de retrouver la vie qui parcourt, qui va au-delà de la syntaxe, enfin au-delà, par-delà, en dessous, à côté, qu'il y a quelque chose qui se passe, pas dans le discours, mais un peu à côté, un peu décalé du discours, un peu en dessous, à côté, je ne sais pas le situer précisément, mais comme une envie de ne pas fixer, de ne pas arrêter le mouvement, de trouver le moyen de faire entendre quelque chose qui est un petit peu que les mots font ressentir sans que ce soit les mots. Je sais pas comment dire. Le mot ment.
Mais alors, est-ce que les musiciens, vous êtes un peu comme délivrés des mots, monsieur Lula ? C'est-à-dire, parce que ce que dit Sébastien, c'est vrai pour les écrivains, les poètes, enfin, qui ont les mots, mais vous, et pour les poètes, pour les écrivains, c'est une sorte de tentation merveilleuse, la musique. Parce qu'enfin, libérer du fascisme des mots, en quelque façon, parce qu'il y a ce côté-là, un petit peu, voilà. Et vous, comment vous le vivez, parce que là, vous êtes comme caché derrière votre instrument, ou en même temps que vous vous avouez, enfin, voilà. Tandis que les poètes vont dire, je laisse surgir, c'est bien moi, enfin, quelque part, mais vous, voilà, c'est des notes.
Je pense qu'on se raconte des histoires en se croyant plus à l'abri des mots que les poètes. Parce qu'on parle, parce qu'on lit, que parfois on écrit aussi, et que ça nous malaxe, ça nous formate, ça nous emprisonne, comme tout le monde. Peut-être qu'on se donne l'illusion avec la musique de pouvoir être un peu plus libre vis-à-vis de ça, mais ça nous attrape à nous aussi. Enfin, ça nous attrape et en même temps... ça cherche à nous enfermer, les mots, mais ça n'y arrive jamais. La biographie, c'est vraiment ça, quoi. C'est que finalement, une vie, ça ne peut pas s'écrire, ça se vit. Après, on peut l'écrire, c'est une biographie, mais ce n'est plus la vie, ce truc-là. Ça rate toujours, quoi. Les mots, ça n'arrivera jamais à nous enfermer. On est inenfermable. Enfermé, du coup.
Et moi, j'ai cette impression-là qui est au fond que l'envie qui sous-tend et dans les gens qu'on invite au festival qui écrivent, c'est un peu ça, c'est au fond ne pas raconter des expériences, mais expérimenter, faire une expérience avec le langage, pas simplement raconter quelque chose, mais pas dire ce qu'on va faire, mais le faire, je sais pas comment dire, faire avec la parole, pour moi c'est une question de vie ou de mort presque avec le langage, faire, Et le mot performance, bon, voilà, c'est un mot comme un autre, mais il essaye de dire ça, cette envie de... Bon, je sais pas.
D'ailleurs qu'avec le langage, mais aussi avec des cailloux, avec des bouts de fer, avec des instruments de musique, avec le corps. Hier, on a eu l'expérience de danse, par exemple.
Oui.
On n'était pas exactement dans le langage, si on parle de la langue française ou autre, mais...
Pas dans le discours.
On n'était pas dans le discours, hein, véritablement. Et ce qu'on aime bien dans les bruissonnantes, c'est qu'on passe... Bon, hier soir, on est passé d'une danse à de la poésie presque classique, en ce sens qu'il y avait des mots, et ensuite à des choses qui étaient de la musique, mais qui pour certains étaient du bruit, enfin, véritablement, enfin, des choses comme ça, des effets. Et donc on avait l'oreille, on avait l'intelligence, on va dire, et on avait le corps, et en fait, les trois parties se succédaient, mais en même temps, les trois, c'est la même, quelque part. Il y avait de la danse dans la voix, il y avait du bruit dans la voix, et il y avait de la musique et de la danse dans les différentes parties. nous, c'était un peu le programme qu'on se donnait dans les bruits sonnantes. Hein, voilà. Et quelque part, pour nous, il y a, moi, j'ai bien aimé qu'il y ait Rabelais dedans, puisqu'il y a l'île sonnante qui se balade. Voilà. Et peut-être, il y a une question qui nous taraude avec Sébastien, parce que demain soir, on a pour mission de tenter de dialoguer tous les deux, et donc de s'insulter, on le fera, sur le thème du printemps des poètes de cette année, qui est le grand XXe siècle. Ce thème est naturellement un peu ridicule, mais en même temps aussi intéressant. Et je crois que Sébastien et moi, on se disait, tiens, ce serait peut-être intéressant de se demander, alors, comme ça, de vous demander surtout, est-ce que vous avez des passés, et peut-être du coup des lectures, dans lesquelles vous enracinez ? Parce que nous, il nous semble qu'en en poésie, mais enfin en art en général, on invente son passé à partir de son art. Et donc, on sait bien que, je ne sais pas, les surréalistes ont inventé Jérôme Bosch ou quelques autres. Et voilà, peut-être, est-ce que... Voilà, pour faire un petit peu Printemps des Poètes, Anne-Claire...
Non, mais c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qui vous nourrit ? Qu'est-ce qui vous a nourri comme expérience fondamentale ?
Des passés lointains, proches...
Oui, ça peut être le 20e, mais on peut ouvrir. Oui. Comment vous sentez une sorte de filiation ou d'influence plus ou moins précise qu'est-ce qui vous a mis par exemple en chemin de poésie ou en chemin de musique? Qu'est-ce qui vous a lancé là-dedans? Je sais pas, Anne-Claire peut-être ou...
Ce qui m'a mis là-dedans, j'en sais rien. Ça m'est tombé dessus. Mais par contre, il y a en tout cas donc des influences inconscientes, hein, mais ça m'a forcément pétri et nourri. J'ai lu très jeune des Victor Hugo, Les Misérables, enfin, etc. Bon, et surtout, j'ai lu tout Zola et quasiment tout Balzac. Donc voilà, à mon avis, ça constitue un fond, je sais pas, de vocabulaire, j'en sais rien en fait. C'est sûr que ça m'a nourri, quoi. Mais bon, après, ça n'influence pas directement. Enfin, c'est pas une... Je cherche pas à être influencée par ça. C'est juste que ça a constitué mon être jeune, quoi. Et ensuite, il y a la Beat Generation, donc avec Miller, Burroughs, Kerouac. Donc peut-être que tout se mélange. Burroughs, des romans éclatés, etc. Le tout à mettre en parallèle avec Zola, où c'est du réalisme...
C'est une écriture du corps aussi, beaucoup, Zola.
Donc, je ne sais pas, peut-être que ça produit, ou en tout cas, contribué à produire ce qui est maintenant, mais je ne sais pas en quoi, en fait. J'en sais rien, je présume, quoi. Voilà.
Pour moi, je ne sais pas. Mon premier livre, je le lis, j'ai 16 ans passé, persuadée avant que si je lis un livre, j'aurais devant moi la preuve par A plus B que j'étais débile et que je ne savais pas lire. Après, donc c'était Le Prince Eric. Après, j'ai lu Chrétien de Troyes. J'ai trouvé ça super, je comprenais, ça avait l'air simple. J'ai lu des Balzac et des Zola, j'ai compris aussi, c'était le grand magasin, ça parlait plein d'amour et tout. Et puis j'ai lu Marguerite Duras, j'ai lu 2 livres, et là j'ai arrêté, je me suis dit que sinon j'allais devenir cinglée, parce que ça me prenait vraiment trop aux tripes. Mais je pense qu'en fait... Je n'ai pas écrit parce que j'ai eu des chocs ou des non-chocs en lisant. Je pense que j'ai écrit parce que justement l'absence de parole ou le manque de parole de savoir s'exprimer, ça a été dur chez moi. Après, je suis pas une... Moi, la langue, quelque part, mon outil, c'est la langue française, mais je me fiche de la langue. Ce qui m'intéresse, c'est le langage. Cette chose à l'intérieur... que moi je vais chercher aujourd'hui avec la langue française, mais si que d'autres vont chercher avec la danse ou la musique ou etc. Mais je crois déjà pour faire une phrase normale, il faut déjà avoir raison gardée. Que si là il y a, je sais pas moi, un bulldozer derrière vous, je vais hurler, je vais partir en courant, je vais émettre un cri, jeter des pierres, avoir un geste et primaire et primitif, animal, enfin la chose qui m'intéresse, mais je vais pas avoir accès à nous allons gentiment ramasser nos affaires et sortir par l'issue de secours. Ça, déjà, pour dire une phrase pareille, il faut avoir... dans des grandes émotions, on n'a plus accès à la langue. Et c'est ces grands bouleversements intérieurs qui m'ont donné envie de mettre la langue en mouvement pour aller les explorer, les voir de plus près, ou je ne sais pas trop quoi, mais si je pouvais le faire avec la musique, peut-être avec le corps, et en dansant, je pense que je le ferai autrement. La langue, c'est dur, la langue. C'est dur, je crois.
Et toi, tu distingues vraiment la langue et le langage. Et le langage, c'est plus profond, plus en dessous que la langue. La langue, si je comprends bien, pour, la langue, pour toi, la langue, c'est la syntaxe, le vocabulaire, on va dire un peu officiel, enfin celui qu'on apprend à l'école.
Ben, oui, ça peut être c'est un instrument. Oui. Au même titre que la guitare, on peut faire les 100 000 notes, etc., etc., pour choper quelque chose, ou faire autrement, pour essayer de choper ce voyage intérieur qui est tout le temps en mouvement. On est tout le temps en train de penser. On va chez le dentiste, dans la salle d'attente, on est en train de penser qu'est-ce qu'on va bouffer le soir, ou qu'est-ce que je sais pas trop quoi, ou quand est-ce qu'on va aller chercher les enfants à l'école, ou mince, c'est l'anniversaire de Schtroumpf, il faut lui faire un cadeau. On est tout le temps en train de penser, tout le temps, ça ne s'arrête jamais, ce mouvement perpétuel de... d'angoisse, de joie, de peur, de... Et tous ces trucs, ces mouvements de vie, c'est ça que sur... Écrire un livre, c'est une expérience plus que... qu'une narration. Je serais incapable de faire un vrai livre avec une vraie histoire, même si j'examine tous les plans de mes histoires, ça tient jamais debout, finalement, en fait. Et par contre, dans la langue, dans l'écriture elle-même, il se passe un brassage de... On fouille qu'un timbre pop, peut-être, mais un vrai brassage. Là, j'ai l'air d'être un petit insecte comme ça, mais peut-être qu'on a pas mal du... Enfin, je ne suis pas une omnibulée de trompettes ou de mes chiens, mais je pense qu'il y a pas mal de rapports. Enfin, on a tous un socle commun qui est le langage. Les animaux ont un langage. La langue, tant mieux, mais la langue, on s'en sert beaucoup pour communiquer, pour etc. Finalement, si elle ne nous sert pas à explorer notre ancienne animalité ou je sais pas trop quoi, ben ça sert. C'est peut-être dommage. Je suis pas très claire. Hein.
Mais en tout cas, avec le chien, on aura la même langue, c'est évident, mais on se comprend par un langage.
Ouais.
Voilà, et c'est très important puisqu'on voit très bien. Voilà. Ouais. Et il me semble qu'il y a une très vieillissante de la poésie où on voit Orphée à la fin de sa vie qui va changer de la poésie. Pour les animaux, les sangliers, etc. Et pour les femmes, bon, moitié folle, et qui lui déchiquette le corps. Et là, il y a un acte vraiment qui est fait, mais un langage, en effet, qui est musical en partie, qui traverse la barrière de la langue. Puisque, je ne sais pas comment il parle aux sangliers, mais les sangliers comprennent, ils sont assis en haut autour de lui. Il y a une histoire comme ça. Oui.
Mais il y a quelque chose qui parle par la présence même.
Oui.
Et cette chose qui parle par la présence même, elle est très très forte. Et elle dépasse même les frontières de l'animé, de l'inanimé, de tout ça. Ça, c'est un profond mystère qui, je trouve, quand le langage arrive à travailler avec ça, n'importe quel langage, hein, qu'il soit langage pictural ou chorégraphique ou musical, ou bien sûr langage littéraire, c'est toujours très très fort. Beckett, par exemple, j'ai vraiment l'impression qu'il est en dialogue avec la minéralité, avec la pierre.
Oui.
Et Rémi, peut-être. Enfin, moi, j'avais une question, mais elle est un peu particulière. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Tu es aussi psychanalyste, hein, et je voulais savoir s'il y a puisqu'on est aussi sur cette question du biographique, enfin de la liaison entre l'écriture et la vie, entre l'art et la vie, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette activité ou ce métier ou cette vocation, je ne sais pas quel est le bon terme, de psychanalyste, avec ton travail de musicien et ta manière particulière d'aborder la musique?
Oui, peut-être que le lien, il est dans l'autre sens. C'est que je crois que si je n'avais pas fait d'analyse, je n'aurais pas refait de musique, très probablement. Parce que j'ai été, depuis gamin jusqu'à ce que j'arrête de faire de la musique, c'est-à-dire quand j'ai commencé un peu sérieusement mes études, dans l'idée d'imiter, de faire comme. Et ce qui a changé pour moi de faire une analyse, c'est qu'il ne s'agissait plus de faire comme, il s'agissait de faire avec ce dont je disposais, pas plus que ça. Moi, je trouve que ce que tu disais sur ce travail du langage, c'est vraiment ça. Le métier, enfin, c'est pas un métier, mais un psychanalyste, c'est... Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est une fonction qu'on occupe parfois quand un patient nous parle, et même ça c'est précaire, on n'y est pas tout le temps. Un peu comme quand on joue sur scène, il y a des moments de grâce, mais ces moments-là ils sont difficiles à attraper, ça passe vite. Mais ce qu'on fait aussi bien quand, avec la poésie, avec la musique ou dans le dispositif analytique, c'est essayer de soutenir ce travail de malaxer, de travailler avec le langage, avec la langue des fois, enfin en tout cas avec la matière qu'on a à disposition et pas d'aller se raconter des histoires. Il s'agit pas de faire sa biographie en fait, aussi bien dans une démarche artistique que dans une démarche analytique, mais plutôt de vérifier qu'elle est infaisable, la biographie, que ce dont il s'agit pour chacun, c'est... tout à l'heure, Edith, tu parlais de mouvements internes, de choses pour lesquelles il n'y a pas franchement de mots disponibles auxquels on a affaire et avec lesquels il faut qu'on trouve un moyen de faire, de traiter avec l'intraitable, finalement, avec des fois des trucs horribles, quand même. On a tous des trucs horribles en soi. Je disais qu'on est tous bons enfermés. Si on se met à l'ouvrir, à dire vraiment ce qu'on a en soi, ça va pas tarder. Hein. C'est remarqué, avec l'état d'urgence, on est déjà tous un peu enfermés dehors. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Des fois, je digresse.
La digression est une réponse magnifique, toujours. Et Eddie, dans ce qui t'a fait venir à la musique, quelles expériences fondamentales ou premières t'ont amené finalement à ne pas devenir Johnny Hallyday?
Parce qu'il y a déjà Johnny Hallyday, il a pris la place.
C'est ça.
La place était déjà prise, donc j'ai essayé d'être Eddie Boubacar le mieux possible que j'ai pu.
Mais comment on fait pour devenir Eddie Boubacar? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un...
Il faut être avec mes parents, avoir vécu ma vie et mes expériences. Et... Moi, j'ai l'impression que ce qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant, c'est juste des rencontres. C'est des rencontres avec des musiciens, des poètes, ça s'est fait par la rencontre en fait. C'est pas d'avoir écouté telle chose ou d'avoir aimé plus telle autre.
Tu veux dire une rencontre directe, immédiate avec des gens avec qui tu as joué
avec
finalement.
Avec qui j'ai joué, avec qui j'ai passé du temps, etc. C'est vraiment ça qui... Enfin moi je le sens vraiment comme ça quoi.
Et tu as commencé l'improvisation musicale il y a combien de temps maintenant?
Disons que j'étais un peu... Quand j'ai commencé vraiment la musique, quand j'étais ado, quoi. Voilà. Mm-hmm. 15 ans, guitare, plaire aux filles, etc. Et j'improvisais déjà, quoi. Voilà, il me reste des cassettes de l'époque. C'est des trucs que je fais maintenant déjà. Et voilà, depuis tout petit, je m'intéressais au son, etc. Donc ça m'est venu, enfin ça m'est pas venu, j'étais dedans, quoi. J'ai pas commencé la musique très tôt, mais voilà, je dessinais des ondes sonores quand j'étais tout petit, etc. Donc voilà, c'est la musique qui m'est tombée dedans.
Et qu'est-ce qui fait qu'une rencontre, enfin moi c'est pour moi un mystère toujours ça, qu'est-ce qui fait qu'une rencontre de musique improvisée, pour toi, elle est réussie? Je suis en train de mettre les conditions pour ce soir-là. Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que ce qui s'est passé était...
Comment tu l'as ressenti, quoi?
Ouais.
Il n'y a pas de critères... Non, j'ai pas de critères objectifs, quoi, je sais pas trop.
Mais si Johnny Hallyday te demandait de faire un duo avec toi, est-ce que tu accepterais? Est-ce que tu aurais envie?
Si c'est bien payé, oui, je le fais. Johnny Hallyday, quand même. Non, je sais pas, oui, pourquoi pas.
Ouais.
Mais bon, il ne demandera jamais.
Et pour la préparation de ton instrument, c'était passé quand même d'un instrument à... Tu as une longue pratique d'un instrument avant à maintenant à la basse. Qu'est-ce que ça change pour toi dans ton rapport à musique? Est-ce que c'est la même chose qui continue sous d'autres, d'une autre façon? Ou est-ce que c'est vraiment un autre monde, une autre approche complètement
pour
toi.
Non, c'est pas un autre monde, mais il y a des filtres, quoi.
C'est quoi un filtre ?
Le filtre de ton rapport du corps avec l'instrument, par exemple,
ouais.
Qui fait que tu ne souffles pas dans une basse, tout simplement, déjà, tu vois, c'est pas les mêmes choses qui sont en jeu, mais au fond, moi-même, c'est la même chose, quoi. C'est parler du langage, c'est le même langage, mais qui est transformé par des filtres physiques.
Ouais, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment bluffé quand il dit arrêtez le saxophone. Et qu'il s'est mis au synthé. La première fois que j'ai entendu jouer du synthé, j'avais l'impression qu'il jouait encore du saxophone. Et je trouvais ça assez beau de retrouver, en plus en étant très rapide, de retrouver ton langage avec un instrument complètement nouveau. C'était un truc extrêmement touchant, quoi, de finalement de vérifier que même quand tu es contraint à changer tes habitudes, tes objets, ça n'empêche pas de continuer son fil. Avec le même matériel quasiment, quoi. L'objet importait peu finalement, que ce soit
au départ surtout, oui. après tu as quand même l'histoire de l'objet avec lequel tu joues, et puis ces possibilités ou ces non-possibilités qui font que tu adaptes ton langage au concret, quoi. Voilà. À l'objet que tu utilises. Donc, petit à petit, c'est vrai qu'au départ, effectivement, même quand je jouais de la basse, au départ, j'essayais de retrouver ce langage que je développais avec le saxophone, mais maintenant, c'est plus du tout ça. Quoi. Je me suis adapté à l'objet.
Je voudrais vous poser juste, pour terminer, parce que je crois qu'il est presque déjà
20h,
aux deux poètes que nous avons là, on parlait de préparer l'objet, voilà, l'instrument, etc. Mais vous... quand vous préparez à jouer, c'est-à-dire à lire en scène l'une ou l'autre, je ne sais pas, un texte que vous avez écrit auparavant, comment vous apprêtez à lire un texte ? Parce que hier, bon, j'étais un peu observé avant, mais voilà, c'est tout à fait extérieur, mais comment on entre dans la scène quand on va se dire, voilà, je suis Edith Azam, mais je ne suis plus Edith Azam, mais je vais lire quelque chose, et pourquoi ce texte ? Voilà, quel est le cheminement ? Et pareil pour Anne Claire, enfin, je ne sais pas, enfin...
Pour moi, je vérifie surtout que le temps soit bon. Mmh. Voilà, parce que j'ai toujours peur d'être trop longue.
Oui.
Ou trop courte. Parce qu'on nous demande quand même des choses qu'il faut respecter.
Oui.
Après, comment j'organise ? Si le temps de lecture est long, j'essaie d'organiser un temps de lecture où ma voix elle ne me sortira pas par les oreilles au bout de 20 minutes, quand des fois on demande plus. Et après, j'essaie de faire comme si rien n'allait. Si je m'isole, ça m'angoisse. Et donc pour l'instant, je prends le parti de essayer de ne pas y penser.
Ouais, c'est bien. Et Anne-Claire, pour demain soir ?
Je ne sais pas.
Pour entière ?
Je vérifie aussi le temps, souvent. Là, je ne vais pas le faire, parce que je commence à savoir à peu près avec ce que j'ai là, en tout cas. Et ça va, je ne sais pas quoi dire, ça va, en fait. Juste peut-être avant, parce que j'ai souvent des quintes de tout, en fait, quand je n'ai pas un peu chauffé la voix. Donc avant, je chauffe un petit peu la voix, mais quand j'ai le temps, quoi. Mais il vaudrait mieux que je le fasse, en fait. Voilà.
Merci. Merci à tous. On va clore cette table ronde rectangulaire donc, de ce deuxième soir des Bruissonnantes. Donc ce soir, je le rappelle, à 21h au Théâtre du Hangar, nous aurons d'abord André Gache, puis Rémi Brassier, puis Sébastien Lespinasse avec Eddy Boubacar, ou dans un autre ordre, je ne sais pas exactement. Demain soir, samedi, donc à 19h, il y aura une libre conversation entre Sébastien Lespinasse et Yves Le Pastipon, moi-même, autour du thème du grand XXe siècle. Et puis ensuite, donc, un groupe qui est Les Parleurs, qui est l'équipe en fait fondatrice du Festival des Bruissonnantes, avec Sébastien Lespinasse, donc Yves Le Pastipon, Jean-Marie Champagne, Didier Roux et Laurence Rioux, excusez-moi, puis Philippe Gelda, bien connu à Toulouse, et Anne-Claire Hélot, que nous avons là, qui conclura en puissance le Festival des Bruissonnantes 2015, avant le 2016, avant le 2017, peut-être consacré aux animaux que nous sommes, nous serons et avons été. Bonsoir.
Merci.